Chapitre 7. Pendant ce temps, en bas, au salon, on jouait à la préférence. Maria Dmitrievna gagnait et était de bonne humeur. Un domestique entra et annonça Panchine. Maria Dmitrievna laissa tomber les cartes et s'agita sur son fauteuil. Varvara Pavlovna la regarda d'un air moqueur, puis dirigea ses regards vers la porte. Panchine parut. Il avait un frac noir, boutonné jusqu'en haut, et un grand faux col anglais. Il m'en a coûté, mais vous voyez, je suis venu. Voilà ce qu'exprimait son visage, rasé de frais et sans l'ombre d'un sourire. « Que vous arrive-t-il, Voldemar ? » s'écria Maria Dmitrievna. « Jusqu'à présent, vous entriez sans vous faire annoncer. » Panchine ne lui répondit que par un regard. La salua respectueusement, mais ne lui baisa pas la main. Elle le présenta à Varvara Pavlovna. Il recula d'un pas, salua cette dernière avec une égale politesse, mais avec une nuance de grâce et de respect de plus, et vint s'asseoir à la table de jeu. La partie de préférence se termina bientôt. Panchine demanda des nouvelles d'Elisaveta Mikhailovna. Il apprit qu'elle était souffrante. Il en témoigna du regret. Ensuite, il se mit à causer avec Varvara Pavlovna, pesant diplomatiquement sur les mots et accentuant chaque parole, écoutant avec déférence ses réponses jusqu'au bout. Mais la gravité de son ton diplomatique était sans effet sur Varvara Pavlovna. Elle le regardait en face, gaiement, attentive, parlait avec aisance, tandis qu'un rire combattu semblait crisper ses narines délicates. Maria Dmitrievna commença par porter au nu le talent de la jeune femme. Panchine inclina poliment la tête, autant du moins que le lui permettait son col empesé, disant « Oh, qu'il en était à l'avance convaincu !» et entama une conversation où il alla presque jusqu'à parler de M. de Metternich. Varvara Pavlovna ferma à demi ses yeux de velours et dit à voix basse « Mais vous aussi, vous êtes artiste !» Puis elle ajouta, plus bas encore, « Venez !» et elle indiqua le piano d'un mouvement de tête. Cette seule parole tombée de ses lèvres, « Venez !» changea en un moment, comme par magie, toute la manière d'être de Panchine. Son air soucieux disparut. Il sourit, s'anima, déboutonna son frac. « Moi, un artiste, là, se dit-il, mais vous, à ce que l'on dit, vous êtes une artiste véritable. » Et il suivit Varvara Pavlovna au piano. « Faites-lui chanter sa romance à la lune !» s'écria Maria Dmitrievna. Ah, « Vous chantez ?» demanda Varvara Pavlovna en jetant sur lui un regard lumineux et rapide. « Asseyez-vous. » Panchine voulut s'en défendre. « Asseyez-vous » répéta-t-elle en frappant impérieusement sur le dossier de la chaise. Il s'assit, toussa et écarta son col et chanta sa romance. « Charmant !» murmura Varvara Pavlovna. « Vous chantez très bien, vous avez du style. Recommencez !» Elle fit le tour du piano et se plaça juste en face de Panchine. Il répéta la romance en imprimant à sa voix une vibration déclamatoire. Varvara Pavlovna, accoudée sur le piano, et tenant ses mains blancs à la hauteur de ses lèvres, le regardait fixement. Panchine cessa de chanter. « Charmant ! Charmante idée ! » dit-elle avec la tranquille assurance d'un connaisseur. « Dites, avez-vous écrit quelque chose pour voix de femme, pour mezzo-soprano ?»« Oh, je n'écris presque rien, » répondit Panchine. « Je ne fais que brassant dans mes moments perdus. »« Mais vous chantez-vous »« Ah oui, je chante. Oh, chantez-le quelque chose, s'écria Maria Dmitrievna. Varvara Pavlovna jeta la tête en arrière et avec la main écarta ses cheveux de ses joues qui s'étaient colorées. Oh, nos voix doivent-elles aller bien ensemble, dit-elle en se retournant vers Panchine. Chantons un duo? Connaissez-vous Sangelloso ou bien La ci darem la mano ou Mira Bianca Luna? Oh, je chantais autrefois Mira la Bianca Luna, répondit Panchine. Oh, il y a longtemps de cela, je l'ai oublié. Oh, cela ne fait rien, nous le répéterons à mi-voix. Laissez-moi m'asseoir. Varvara Pavlovna se mit au piano. Panchine se plaça à côté d'elle. Ils chantèrent le duo tout bas. Varvara Pavlovna le reprit à divers endroits, puis ils le chantèrent haut, puis ils le répétèrent encore deux fois. Mira la bianca luna! Varvara Pavlovna n'avait plus la voix fraîche, mais elle savait la manier avec beaucoup d'art. Panchine fut d'abord intimidé. Ses intonations étaient fausses. Il prit bientôt son courage à deux mains, et s'il ne chanta pas d'une manière irréprochable, au moins il remuait les épaules, balançait tout son corps et levait de temps en temps la main comme un vrai chanteur. Varvara Pavlovna joua deux ou trois petits morceaux de Thalberg et dit, d'un air coquet, une romance française. Maria Dmitrievna ne savait plus comment exprimer sa satisfaction. Elle voulut plus d'une fois envoyer chercher Lise. De son côté, Gwenelonowski ne trouvait pas de parole et branlait seulement la tête. Mais tout à coup, il bâilla à l'improviste et eut à peine le temps de mettre la main sur sa bouche. Ce bâillement n'échappa point à Varvara Pavlovna. Elle tourna aussitôt le dos au piano en ajoutant: Bah, cette musique comme cela, causons. Elle croisa les bras. Oui, assez de musique, répéta gaiement Panchine. Et il entama avec elle en français une conversation alerte et légère. Bon, on se croirait dans un salon parisien, se disait Maria Dmitrievna en écoutant leur conversation pleine de finesse et de détours. Panchine était dans la jubilation. Ses yeux brillaient, ses lèvres souriaient. D'abord, quand il rencontrait le regard de Maria Dmitrievna, il passait la main sur son visage, fronçait le sourcil et poussait de gros soupirs. Mais bientôt, il oublia tout à fait son rôle et s'abandonna sans réserve au plaisir d'une causerie moitié mondaine, moitié artistique. Varvara Pavlovna se montra un philosophe accompli. Elle avait réponse à tout. Rien ne l'embarrassait et elle ne doutait de rien. Il était facile de voir qu'elle avait causé souvent et beaucoup avec des hommes d'esprit de nature différente. Paris était le pivot de toutes ses pensées, de tous ses sentiments. Panchine amena la conversation sur la littérature. Il se trouva qu'elle-même, aussi bien que lui, n'avait lu que des ouvrages français. George Sand lui inspirait de l'indignation. Elle admirait Balzac tout en le trouvant fatigant. Dans Eugène Sue et Scribe, elle voyait des connaisseurs profondément humains. Elle adorait Dumas et Féval. Dans son for intérieur, elle préférait à tous Paul de Kock, mais il va sans dire qu'elle ne pensa pas même son nom. À dire vrai, la littérature l'intéressait médiocrement. Varvara Pavlovna évitait avec soin tout ce qui pouvait même de loin rappeler sa position. Il n'était pas le moins du monde question d'amour dans tout ce qu'elle disait. Au contraire, ses discours respiraient plutôt un certain rigorisme pour les entraînements du cœur et marquaient le désenchantement et la modestie. Panchine la réfutait, elle tenait bon. Mais, chose étrange, pendant qu'elle laissait tomber de ses lèvres des paroles de blâme, souvent impitoyables, le son même de sa voix était caressant et tendre, et ses yeux semblaient dire ce que précisément disaient ses beaux yeux. Et il aurait été difficile de le définir, mais leur langage doux et voilé n'avait rien de sévère. Panchine s'efforçait d'en pénétrer le sens intime, il s'efforçait aussi de faire parler ses regards. Mais il sentait son impuissance. Il avait conscience de l'avantage qu'avait sur lui Varvara Pavlovna, cette lionne venue de l'étranger, cette quasi-parisienne, et devant elle, il ne se sentait pas tout à fait maître de lui-même. Varvara Pavlovna avait l'habitude, tout en causant, d'effleurer légèrement la manche d'habit de son interlocuteur. Ces attouchements momentanés troublaient beaucoup Vladimir Nikolaïevitch. Varvara Pavlovna possédait l'art d'être bientôt à son aise avec tout le monde. Il ne s'était pas passé 2 heures, qu'il semblait déjà à Panchine la connaître depuis l'éternité, tandis que Lise, cette même Lise qu'il aimait cependant encore, dont il avait demandé la main la veille, Lise restait pour lui dans l'éloignement et semblait se perdre dans un brouillard. On servit le thé. La conversation prit un tour encore plus intime. Maria Dmitrievna sonna le petit cosaque et lui ordonna de dire à Lise qu'elle descendît au salon si sa migraine était dissipée. Au nom de Lise, Panchine se mit à discourir sur l'abnégation et le sacrifice, et à débattre cette question. Quel est le plus coupable, de l'homme ou de la femme? Maria Dmitrievna prit feu aussitôt, affirma que la femme en était certes plus capable, déclara qu'elle le prouverait hors de mots, s'embrouilla, et après avoir hasardé une comparaison assez malheureuse, finit par se taire. Varvara Pavlovna prit un cahier de musique, s'en couvrit à moitié le visage et, se tournant vers Panchine, lui dit à demi-voix, un doux sourire sur les lèvres et dans les yeux, tout en grignotant un biscuit, « Elle n'a pas inventé la poudre, la bonne dame !» Panchine fut un peu surpris et effrayé de la hardiesse de Varvara Pavlovna, mais il ne comprit point combien cette réflexion inattendue trahissait le mépris pour lui-même. Et oubliant les caresses et l'attachement de Maria Dmitrievna, oubliant les dîners qu'elle lui avait offerts, l'argent qu'elle lui avait prêté en secret, il répondit le malheureux, avec un accent et un sourire semblables. « Je crois bien. » Varvara Pavlovna lui jeta un regard amical et se leva. Lise parut. Marfa Timofeyevna avait en vain essayé de la retenir. La jeune fille voulait endurer l'épreuve jusqu'au bout. Varvara Pavlovna alla à sa rencontre, ainsi que Panchine, dont la figure prit aussitôt sa première expression diplomatique. « Comment va votre santé ?» demanda-t-il à Lise. « Je vais mieux à présent, merci, » répondit-elle. Ben, « Nous autres, nous avons fait un peu de musique. Oh, il est fâcheux que vous n'ayez pas entendu Madame Lavretsky. Elle chante admirablement bien, en artiste consommé. »« Venez ici !» s'écria Maria Dmitrievna. Varvara Pavlovna se leva aussitôt avec la soumission d'un enfant et s'assit à ses pieds sur un petit tabouret. Maria Dmitrievna ne l'appelait que pour faciliter à Panchine un court entretien avec Lise. Elle espérait encore que sa fille se raviserait. Il lui vint de plus une idée en tête qu'elle voulut aussitôt réaliser. Savez-vous, dit-elle tout bas à Varvara Pavlovna, je veux essayer de vous réconcilier avec votre mari. Oh, je ne réponds pas du succès, mais j'essaierai. Vous savez qu'il a beaucoup d'estime pour moi. Varvara Pavlovna leva lentement les yeux sur Maria Dmitrievna et croisa les bras avec grâce. « Vous êtes mon sauveur, ma tante, dit-elle d'une voix triste. Oh, je ne sais comment vous remercier de toutes vos bontés. Mais je suis trop coupable devant Théodore Ivanovitch. Il ne peut pas me pardonner. Mais est-ce qu'en effet, commença à dire Maria Dmitrievna avec un accent de curiosité. Oh, non, ne me demandez rien, interrompit Varvara Pavlovna en baissant les yeux. J'ai été jeune, inconsidéré. Du reste, je ne veux pas me justifier. Cependant, pourquoi pas essayer ? Ne vous désespérez pas, répliqua Maria Dmitrievna. Et elle voulut lui donner une petite tape sur la joue. Mais, jetant un regard sur ses traits, elle fut intimidée. « Toute modeste qu'elle est, pensa-t-elle, c'est toujours une lionne. »« Êtes-vous malade ?» disait pendant ce temps-là Panchine à Lise. Oh, « Oui, je ne me porte pas bien. »« Oh, je vous comprends, » dit-il après un assez long silence. « Oui, je vous comprends. »« Que voulez-vous dire ?»« Ben, je vous comprends. » répéta avec emphase Panchine, qui ne savait trop que dire. Lise se troubla un moment, mais elle ne tarda pas à prendre vaillamment son parti. Panchine affectait un air mystérieux. Il se tut en se détournant et en prenant une contenance grave. « Il me semble toutefois qu'il est déjà 11 heures, observa Maria Dmitrievna. La société comprit et commença à faire ses adieux. Varvara Pavlovna fut obligée de promettre qu'elle viendrait dîner le lendemain et qu'elle amènerait avec elle Adda. Gudeonovski, qui avait failli s'endormir, assis dans son coin, s'offrit pour la reconduire chez elle. Panchine salua tout le monde avec des façons toutes solennelles. Mais, se trouvant sur le perron et mettant Varvara Pavlovna en voiture, il lui serra la main et lui dit de nouveau « Au revoir !» Gwedenorowski avait pris place à côté d'elle. Pendant toute la route, elle s'amusa à mettre comme par hasard le bout de son petit pied sur celui de son voisin. Il s'embarrassait, il se confondait en compliments. Elle souriait coquettement et l'agaçait du regard quand le reflet du réverbère de la rue pénétrait dans la voiture. La valse qu'elle venait de jouer tournoyait encore dans sa tête et la préoccupait. Quel que fût l'endroit où elle se trouvait, il lui suffisait de se représenter une salle de bal, les lustres, un tournoiement rapide au son de la musique, pour qu'une animation fébrile bouillonnât aussitôt dans son âme. Ses yeux s'allumaient d'un feu intérieur, un sourire errait sur ses lèvres, une certaine grâce lascive semblait se répandre sur toute sa personne. Arrivée chez elle, Varvara Pavlovna sauta légèrement de voiture. Il n'y a que les lionnes qui sachent sauter ainsi. Se tourna vers Gwedenovski, et tout à coup lui éclata de rire au nez. « C'est une charmante créature, » pensait le conseiller d'État, en revenant chez lui, où l'attendait son domestique avec une fiole de bonne d'Opeldodor. « Il est heureux que je sois un homme posé. Cependant, pourquoi s'est-elle mise à rire ?» Martha Timofievna passa toute la nuit au chevet de Lise. Lavretsky resta un jour et demi à Vassilievskoye et passa presque tout ce temps à errer sans but dans les environs. Il ne pouvait rester à la même place, le chagrin le rongeait. Il éprouvait tous les tourments d'une passion fougueuse et sans issue. Il se souvint du sentiment dont son âme avait été saisie le lendemain de son arrivée. Il se souvint de ses résolutions d'alors et s'en voulut à lui-même. Qu'est-ce qui avait pu le détourner de la voie du devoir et du seul but désormais permis à son existence? C'était encore et toujours la soif de bonheur. « Tu as voulu de nouveau goûter le bonheur d'ici-bas, » se disait-il en se parlant à lui-même. « Tu as oublié que c'est là un luxe dans la vie, une faveur imméritée, quand par hasard il visite l'homme une fois. » Mais mon bonheur a été incomplet, mensonger, diras-tu. Eh bien, quels sont tes droits à un bonheur complet et réel? Regarde autour de toi. Qui donc jouit du bonheur parfait? Voilà un paysan qui va faucher. Peut-être est-il satisfait de son sort? Mais voudrais-tu échanger ta position contre la sienne? Souviens-toi de ta mère. Combien ses vœux étaient modestes et quelle destinée pourtant lui était chue en partage. N'es-tu donc venu ici que pour te faire valoir devant Panchine, quand tu lui as dit que tu n'étais revenu en Russie que pour labourer la terre? Tu es revenu pour courir au déclin de ta vie après les jeunes filles. À peine t'es-tu cru libre et tu as tout oublié, et tu t'es mis à poursuivre ton rêve comme un enfant poursuit un papillon. Au milieu de ses réflexions, l'image de Lise s'offrait continuellement à son esprit, et il s'efforçait de l'écarter. Il repoussait en même temps un autre souvenir, sans cesse présent à sa mémoire avec ses traits détestés, un souvenir où l'image de la beauté cachait un cœur faux et cruel. Le vieil Antoine ne s'aperçut que son maître n'était pas dans son assiette. Pendant quelque temps, il se borna à soupirer derrière la porte. Enfin, il s'enhardit, et s'approchant de lui, il lui proposa de prendre quelque chose de chaud. Lavretsky s'emporta contre le vieillard, le chassa de la chambre, puis lui fit ses excuses. L'affliction d'Antoine ne fit que s'en accroître. Lavretsky se sentait incapable de rester plus longtemps au salon. Il lui semblait que son aïeul André, du fond de son cadre, regardait avec mépris son chétif descendant. « Ah ah, tu nages à la surface !» semblait lui dire ses lèvres grimaçantes. « Mais serait-ce possible, pensa-t-il, que je ne puisse me dompter, que je me laissasse dominer par une semblable chimère ?» À la guerre, les blessés s'imaginent toujours que leurs blessures n'ont aucune gravité. Ne nous faisons pas d'illusions, je ne suis plus un enfant. Après tout, j'ai vu le bonheur de près, je l'ai pu croire possible, et il s'est évanoui. Que la roue de la loterie tourne encore, et le mendiant peut devenir riche. Mais quand une chose ne doit pas être, il n'y a plus à y revenir. Je reprendrai ma tâche en me clouant les lèvres et je saurai bien me contraindre au silence. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que j'essaierai de me maîtriser. Et pourquoi ai-je fui? Mais pourquoi suis-je ici, me cachant la tête comme l'autruche? On dit qu'il est dur d'envisager un malheur en face. Allons donc. Antoine, dit-il à haute voix, faites atteler tout de suite mon talentas. « Oui, pensa-t-il de nouveau, il faut savoir s'imposer silence, il faut se rendre maître de son cœur. » C'est avec de pareils raisonnements que Lavretsky tâchait de dissiper son chagrin, mais ce chagrin était grand et profond. Si bien que la vieille Apraxia, qui avait déjà perdu tout sentiment, sinon toute intelligence, hocha la tête et l'accompagna tristement du regard, quand elle le vit monter dans son talentas pour se rendre à la ville. Les deux chevaux marchaient rapidement, lui se tenait immobile et roide, les regards portés en avant sur la route. La veille, Lise avait écrit à Lavretsky de venir le voir au soir. Il se rendit d'abord à son logement. Il n'y trouva ni sa femme ni sa fille. Les gens lui apprirent qu'elle était chez les Kalitines. Il eut à cette nouvelle une explosion de fureur. « Mais cette femme a juré d'empoisonner ma vie !» se dit-il, le cœur plein de colère. Il se mit à arpenter la chambre à grands pas, bousculant tout, jouets d'enfants, livres, colifichets féminins. Il appela Justine et lui donna l'ordre d'enlever tous ces objets futiles. « Oui, monsieur, » dit-elle en minaudant. Elle commença à ranger dans la chambre en se donnant des grâces. Mais chacun de ses mouvements faisait clairement sentir Lavretsky, qui n'était à ses yeux qu'un ours mal appris. Lui regardait, la haine dans le cœur, cette figure parisienne, moqueuse et provocante, quoique fanée, avec ses manchettes blanches, son tablier de soie et son petit bonnet. À la fin, il la renvoya, et après de longues hésitations, sa femme n'étant pas rentrée, il se décida à se rendre chez les Kalitines. Il ne voulait pas entrer chez Maria Dmitrievna. Pour rien au monde, il n'aurait voulu mettre le pied dans un salon où se trouvait sa femme, mais chez Marfa Timofievna. Il se souvint que l'escalier de service des femmes de chambre menait tout droit chez elle. Le hasard vint à son aide. Il rencontra Shurochka dans la cour, et celle-ci le conduisit chez la vieille dame. Il la trouva seule contre son habitude, nu-tête, courbée, les mains croisées sur la poitrine. En voyant Lavretsky, Marfa Timofievna se sentit en proie à une vive agitation. Elle se leva brusquement et se mit à marcher par la chambre, comme si elle cherchait son bonnet. « Ah, te voilà !» dit-elle d'un air affairé et en évitant son regard. « Bonjour. Eh bien, quoi? Que faire? Où as-tu été hier? Eh bien, elle est arrivée. Eh bien, oui. Eh bien, il faut donc, d'une manière ou d'une autre... » Lavretsky s'affaissa sur une chaise. « Oui, oui, assieds-toi, » continua la vieille. « Tu es montée tout droit. Oui, oui, naturellement. » T'es venu voir quelle figure je fais? Merci. » La vieille dame se tut. Lavretsky ne savait que lui dire, mais elle le comprenait. Lise, oui, Lise, a été ici tout à l'heure, continua-t-elle en nouant et dénouant les cordons de son sac à ouvrage. Elle ne se sent pas très bien. Shurochka, où es-tu? Viens ici, ma petite, tu ne peux pas rester en place. « Moi aussi j'ai mal à la tête, ce chant, cette musique sans doute. »« De quel chant parlez-vous, ma tante ?»« Comment donc? Oh, ils ont déjà commencé. Oh, comment nommez-vous cela? Des duos, je crois. Et toujours en italien. Tchit-tchit-tchit-tcha, de vrais cris de corneille. Ils vous font des notes à vous retourner l'âme. Ce panchine. Et puis la tienne. » Et comme ça s'est arrangé vite, ça, c'est sans cérémonie, comme s'ils étaient parents. Mais après cela, le chien cherche bien un refuge. On fait ses efforts pour avoir bonne contenance, tant qu'on ne vous met pas à la porte. J'avoue cependant que je ne m'attendais pas à cela, répondit Lavretsky. Il faut une grande hardiesse. « Non, mon ami, c'est pas de l'hardiesse, c'est du calcul. Mais que Dieu lui pardonne. On dit que tu l'envoies à Lavretsky, est-ce vrai ?»« Oui, je mets ce bien à sa disposition. »« Mais t'as demandé de l'argent ?»« Non, pas encore. Oh, cela tardera pas. »« Mais je viens seulement de voir ton visage. Te portes-tu bien ?»« Oui. » « Shurochka !» s'écria tout à coup la vieille. « Va dire à mademoiselle Lise, c'est-à-dire, non, demande, elle est en bas, n'est-ce pas ?»« Elle est en bas. C'est cela, Demande-lui où elle a mis mon livre. Elle sait sans doute. J'entends. La vieille dame se mit de nouveau à s'agiter. Elle tirait un à un les tiroirs de sa commode. Lavretsky se tenait immobile sur sa chaise. Tout à coup, on entendit des pas légers sur l'escalier. Lise entra. Lavretsky se leva et salua. La jeune fille s'arrêta à la porte. Lise, ma petite Lise, dit la vieille dame d'un accent préoccupé, où est mon livre? Où l'as-tu mis? Quel livre, ma tante? Mais le livre, mon Dieu! Oh. D'ailleurs, je ne t'ai point appelé, mais c'est égal. Que faites-vous en bas? Voilà Fiodor Ivanovitch qui est venu. Et ta tête? Oh, ce n'est rien. Oh, tu dis toujours que c'est rien. Eh bien, que fait-on chez vous? Encore de la musique? Non, on joue aux cartes. Oui, oui, elle est à toute fin. Shurovska, je vois que tu as envie de courir dans le jardin, vas-y. Mais non, ne raisonne pas, je te prie, va. Nastasia Karpovna est allée au jardin toute seule, va la rejoindre. Il faut marquer de la déférence à la vieille dame. Shurovska sortit. Mais où est mon bonnet? Où l'ai-je donc mis? Ah non, 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 reste assise. Mes jambes peuvent encore me porter. Il doit être dans ma chambre à coucher. Et jetant à la dérobée un regard sur Lavretsky, Marfa Timofievna s'éloigna. Elle avait d'abord laissé la porte ouverte, mais soudain elle revint sur ses pas et la ferma. Lise s'appuya contre le dossier de son fauteuil et porta lentement la main à son visage. Lavretsky ne bougea pas. Ben « Voilà comment nous devions nous revoir, » dit-il enfin. Lise écarta les mains. « Oui, » dit-elle d'une voix sourde, « nous avons été bien punis. » « Puni, répéta Lavretsky, mais vous, pourquoi seriez-vous puni ?» Lise leva les yeux sur lui. Il n'exprimait ni douleur ni trouble. Seulement, il paraissait plus terne et moins grand. Son visage était pâle, ses lèvres légèrement entrouvertes avaient également pâli. Le cœur de Lavretsky tressaillit de pitié et d'amour. « Vous m'avez écrit, tout est fini, » murmura-t-il. « Vous avez raison, tout est fini avant d'avoir commencé. »« Il faut oublier tout cela, » dit Lise. « Je suis contente que vous soyez venue. Je voulais vous écrire, mais il vaut mieux ainsi. Nous n'avons pas de temps à perdre. Tous deux, nous avons des devoirs à remplir. » « Vous, Fiodor Ivanovitch, vous devez vous réconcilier avec votre femme. Lise, c'est moi qui vous le demande. C'est la seule manière d'expier tout ce qui s'est passé. Vous y réfléchirez. Vous ne me refuserez point. Mais Lise, au nom de Dieu, vous exigez l'impossible. Je suis prêt à faire tout ce que vous ordonnerez, mais maintenant, me réconcilier avec elle. » « Je consens à tout, j'ai tout oublié, mais je ne puis pourtant forcer mon cœur. Ayez pitié, c'est trop cruel. »« Mais je n'exige point de vous ce que vous dites. Ne vivez pas avec elle si vous ne le pouvez pas, mais réconciliez-vous, » ajouta Lise en portant de nouveau sa main à ses yeux. « Souvenez-vous de votre fille. » « Faites cela pour elle. »« C'est bien, » dit entre ses dents Lavretsky. « Supposons que je le fasse. Ce sera remplir mon devoir. »« Mais vous, votre devoir à vous, en quoi peut-il consister ?»« C'est à moi de le savoir. »« Lavretsky tressaillit. Vous seriez-vous décidé à épouser Ponchine ? Demanda-t-il. Elle s'y sourit imperceptiblement. Oh non, dit-elle. Ah, Lise, Lise, s'écria Lavretsky, comme nous aurions pu être heureux. Lise jeta encore un regard sur lui. Maintenant, vous voyez vous-même, Fiodor Ivanovitch, que le bonheur ne dépend pas de nous, mais de Dieu. Mais non, c'est parce que... Enfin, oui, parce que vous... Et la porte de la chambre voisine s'ouvrit brusquement, et Marfa Timofievna parut son bonnet à la main. « Oh, c'est à grand-peine que je l'ai trouvé !» dit-elle en se plaçant entre le Lavretsky et Lise. « Je l'avais fourré moi-même dans un coin. Ah, quel malheur que la vieillesse! Mais la jeunesse ne vaut guère mieux. Mèneras-tu toi-même ta femme à Lavriki ?» dit-elle en s'adressant à Fiodor Ivanovitch. « Moi, avec elle, à Lavriki ?»« Bon, je ne sais pas, » ajouta-t-il après un moment de silence. « Tu descends pas ?»« Aujourd'hui, non. »« C'est bien, fais comme tu l'entends. »« Mais toi, Lise, je crois que tu devrais descendre. »« Ah, mon Dieu, j'ai oublié de donner du grain à mon merle. »« Attends un instant, je reviens tout de suite. » Et Marfa Timofievna s'élança hors de la chambre, sans mettre son bonnet. Lavretsky s'approcha rapidement de Lise. « Lise, dit-il d'une voix suppliante, nous nous séparons pour toujours. Mon cœur se déchire, donnez-moi la main en signe d'adieu. » Lise leva la tête. Son regard fatigué, presque éteint, s'arrêta sur lui. « Non !» murmura-t-elle en retirant la main qu'elle avait déjà tendue. « Non, Lavretsky !» Elle le met ainsi pour la première fois. « Je ne vous donnerai point la main. À quoi bon ? Reculez-vous, je vous en prie. Vous savez que je vous aime. »« Oui, je vous aime, » ajouta-t-elle avec force, « mais non, non !» Et elle porta son mouchoir à ses lèvres. « Donnez-moi au moins ce mouchoir. » La porte cria. « Prenez !» dit rapidement Lise. Le mouchoir glissa sur ses genoux. Lavretsky le saisit avant qu'il eût le temps de tomber et le cacha vivement sur son sein. En se retournant, il rencontra les yeux de Marfa Timofievna. « Ma petite Lise, il me semble que ta mère t'appelle !» dit la vieille dame. Lise se leva aussitôt et sortit. Marfa Timofievna s'assit de nouveau dans son coin. Lavretsky voulut prendre congé d'elle. « Fédia, dit-elle tout à coup, « plaît-il ma tante ? Es-tu un honnête homme ? Comment ? Je te demande si tu es un honnête homme. J'espère que oui. » « Bien, donne-moi ta parole d'honneur que tu es un honnête homme. »« Volontiers, mais à quoi bon ?»« C'est mon affaire. »« Et toi-même, mon cher, si tu y penses bien, tu n'es pas un sot. »« Et tu comprendras pourquoi je te demande cela. »« Eh bien, adieu, mon cher, merci d'être venu me voir. »« Souviens-toi de ta parole et embrasse-moi. » « Oh, mon ami, tout cela est pénible pour toi, je le sais bien, mais tout le monde a sa peine. Tiens, moi, jadis, j'enviais les mouches. En voilà, pensais-je, à qui il fait bon vivre en ce bas monde. Mais j'ai entendu une fois comment une mouche se débattait entre les pattes d'une araignée. « Oh, non, me suis-je dit, il paraît qu'elles ont aussi leurs jours de rage. Que faire, mon ami ? N'oublie pourtant pas ta promesse. Allez, va, va. » Lavretsky descendit l'escalier de service et s'approchait déjà de la porte cochère quand un domestique vint le rejoindre et lui dit « Maria Dmitrievna vous prie de passer chez elle. » Oh, dites mon ami que je ne saurais maintenant, répondit Fiodor Ivanovitch. Elle vous en prie instamment, continua le laquais. Elle vous fait dire qu'elle est seule. Le monde est parti ? Demanda Lavretsky. Oui, monsieur, dit le laquais en comprimant une envie de rire. Lavretsky haussa les épaules et le suivit. Maria Dmitrievna était seule dans son cabinet, assise au fond d'un fauteuil à la Voltaire. Elle respirait de l'eau de Cologne. Un verre d'eau avec de l'eau de fleur d'oranger était posé sur une table auprès d'elle. Elle était agitée et avait l'air embarrassée. Lavretsky entra. « Vous avez désiré me voir ?» dit-il en saluant froidement. « Oui, » répondit Maria Dmitrievna, et elle but une gorgée. « J'ai appris que vous étiez allé tout droit chez ma tante. Je vous ai fait demander de passer chez moi, j'ai besoin de causer avec vous. Asseyez-vous, je vous prie. » Maria Dmitrievna reprit haleine. « Vous savez, continua-t-elle, que votre femme est arrivée. « Je le sais, » dit Lavretsky. Oui, enfin, c'est-à-dire, elle est venue chez moi et je l'ai reçue. C'est là-dessus que je voulais m'expliquer avec vous. Je puis dire, grâce à Dieu, que j'ai mérité l'estime générale, et pour rien au monde je ne ferai quelque chose d'inconvenant. Quoique j'eusse prévu que cela vous serait désagréable, je n'ai pu prendre sur moi de lui fermer ma porte. Elle est ma parente, grâce à vous. Mettez-vous à ma place. Quel droit avais-je de lui refuser ma maison ? Convenez-en. Oh, vous avez tort de vous en inquiéter, dit Lavretsky. Vous avez très bien fait. Je ne suis nullement fâché, je n'ai point du tout l'intention d'empêcher Varvara Pavlovna de voir ses connaissances. Seulement, je ne suis pas entré chez vous aujourd'hui parce que je ne voulais pas me rencontrer avec elle, voilà tout. Ah, que je suis aise d'entendre cela de votre bouche, s'écria Maria Dmitrievna. Du reste, je n'en entendais pas moins de la noblesse de vos sentiments. Quant à mon inquiétude, elle n'a rien qui doive vous surprendre. Je suis femme et je suis mère. Pour ce qui concerne votre femme, je ne puis certes pas être arbitre entre vous deux. Je le lui ai dit elle-même. Elle est si aimable, on ne peut que se plaire dans sa société. Lavretsky se mit à sourire avec ironie et à tourner son chapeau. Et puis je voulais encore vous dire, ajouta Maria Dmitrievna en se rapprochant un peu de lui, si vous aviez vu comme son maintien est modeste et respectueux, c'en est touchant. Si vous aviez entendu comme elle parle de vous, je suis, dit-elle, tout à fait coupable envers lui, je n'ai pas su l'apprécier. C'est un ange, ce n'est pas un homme. Oui, oui. C'est ainsi qu'elle parle, un ange. Elle se repent si fort. Ma parole, je n'ai jamais vu un repentir semblable. À propos, Maria Dmitrievna, dit Lavretsky, je serais curieux de savoir une chose. On dit que Varvara Pavlovna a chanté chez vous. Était-ce au moment de se repentir ou bien... Oh, comment n'avez-vous pas honte de parler ainsi ? Elle n'a chanté, joué du piano, que pour m'être agréable, parce que je l'en avais prié instamment et que je lui avais, pour ainsi dire, ordonné. Je la voyais tellement triste que j'ai voulu la distraire. Puis j'avais entendu dire qu'elle avait un très beau talent. Mais c'est une femme complètement brisée. Demandez plutôt à Gwodionowski. C'est une femme finie, tout à fait. Et vous l'accusez. Lavretsky haussa les épaules. Et puis quel ange que votre Ada, continua Maria Dmitrievna. Quelle délicieuse petite fille. Comme elle est gentille et spirituelle. comme elle parle le français, elle comprend aussi le russe. Elle m'a nommé sa tante. Et puis elle n'est pas sauvage, comme les enfants de son âge. Parle-moi du monde. Et puis elle vous ressemble que c'est incroyable. Les yeux, les sourcils, c'est vous tout à fait vous. J'avoue que je n'aime pas beaucoup les petits-enfants de cet âge, mais je me suis à moi chez votre fille. Maria Dmitrievna, dit tout à coup Lavretsky, permettez-moi de vous demander, à quel propos prenez-vous la peine de me parler ainsi? À quel propos? Maria Dmitrievna respira son lot de cologne et but une nouvelle gorgée. Mais je parle ainsi parce que je suis votre parente. Je prends le plus vif intérêt à tout ce qui vous concerne. Je sais que votre cœur est excellent. Écoutez, mon cousin, au bout du compte, je suis une femme d'expérience. Je ne jette pas mes paroles au vent. Allez, pardonnez. Pardonnez à votre femme. Et les yeux de Maria Dmitrievna se remplirent subitement de larmes. Pensez-y, ajouta-t-elle. La jeunesse, l'inexpérience, peut-être aussi le mauvais exemple, le défaut de mère pour la tenir dans la bonne voie. Pardonnez-lui, Fiodor Ivanovitch, elle a été assez punie. Les larmes commencèrent à rouler sur les joues de Maria Dmitrievna. Elle ne les essuya pas, elle aimait à pleurer. Lavretsky était sur des charbons ardents. Ah, mon Dieu, pensait-il, quel supplice! Quelle journée que celle d'aujourd'hui! Vous ne répondez pas? Reprit Maria Dmitrievna. Que dois-je penser? Est-il possible que vous soyez assez cruel? Non, je ne veux pas y croire. Je sens que mes paroles vous ont convaincu, Fiodor Ivanovitch. Dieu vous récompensera de votre bonté. Acceptez donc de mes mains votre femme. Lavretsky se leva involontairement. Maria Dmitrievna se leva aussi. Et, passant rapidement derrière le paravent, elle fit apparaître Varvara Pavlovna. Pâle, à demi-morte, les yeux baissés, celle-ci avait l'air d'avoir abdiqué toute préoccupation personnelle et s'être remise tout entière aux mains de Maria Dmitrievna. Lavretsky recula d'un pas. « Vous étiez ici ! » s'écria-t-il. « Oh, ne l'accusez pas !» se hâta de dire Maria Dmitrievna. « Elle ne voulait absolument pas rester. C'est moi qui le lui ai ordonné. » C'est moi qui l'ai fait asseoir derrière le paravent. Elle assurait que cela vous fâcherait encore davantage. Je n'ai pas voulu l'écouter. Oh, je vous connais mieux qu'elle-même. Acceptez donc de mes mains votre femme. Allez, Varvara, ne craignez rien. Jetez-vous aux pieds de votre mari. Elle l'attira par la main. Que ma bénédiction... « Attendez, Maria Dmitrievna !» interrompit Lavretsky d'une voix sourde mais vibrante. « Vous aimez probablement les scènes sentimentales. » Il ne se trompait pas, Maria Dmitrievna avait conservé de l'Institut le goût des effets de théâtre. « Elle vous amuse, mais il y a des personnes qui ne les goûtent pas. Au reste, ce n'est pas à vous que je vais parler, vous n'êtes pas le personnage principal de cette comédie. » « Que désirez-vous de moi, madame ?» ajouta-t-il en se tournant vers sa femme. « N'ai-je point fait pour vous ce que j'ai pu ? Ne me dites pas que cette entrevue n'a point été préparée par vous. Je ne vous croirai pas et vous savez que je ne puis vous croire. Que voulez-vous donc ? Vous avez de l'esprit ? Vous ne faites rien sans but ? Vous devez comprendre que vivre avec vous comme autrefois me serait impossible. Non que je vous en veuille, mais... parce que je suis devenu un autre homme. Je vous l'ai déjà dit le lendemain de votre retour, et vous-même en ce moment, au fond du cœur, vous me donnez raison. Mais vous voulez-vous réhabiliter dans l'opinion publique? Or, il ne vous suffit pas de demeurer dans ma maison. Vous voulez que nous vivions sous le même toit, n'est-ce pas? Je désire que vous me pardonniez, murmura Varvara Pavlovna sans lever les yeux. Elle désire que vous lui pardonniez, répéta Maria Dmitrievna. Et non pour moi, mais pour Ada, continua à demi-voix Varvara Pavlovna. Oui, ce n'est pas pour elle, c'est pour votre Ada, répéta encore Maria Dmitrievna. Parfaitement, alors vous le voulez, dit Lavretsky avec effort. Eh bien, soit, je consens même à cela. Varvara Pavlovna jeta sur lui un rapide regard. Oh, Dieu soit loué, s'écria Maria Dmitrievna. Et elle recommença à tirer Varvara Pavlovna par la main. Maintenant, recevez donc de ma... Attendez, vous dis-je, interrompit Lavretsky. Je consens à vivre avec vous, Varvara Pavlovna, continua-t-il. C'est-à-dire, je vous mènerai à Lavriki, et j'y resterai avec vous aussi longtemps que j'en aurai la force. Ensuite, je partirai pour revenir de temps en temps. Vous le voyez, je ne veux point vous tromper, mais n'exigez rien de plus. Vous-même, vous ririez si je remplissais le désir de notre respectable parente, si je vous serrais contre mon cœur en vous assurant que ce qui s'est passé n'a jamais eu lieu et que l'arbre abattu va refleurir. Ben, je le vois bien, il faut se soumettre. Ce n'est pas ainsi que vous comprendrez ces paroles, qu'importe. Je le répète, je demeurerai avec vous. Non, je ne puis le promettre. Je me réconcilierai avec vous. Je vous reconnaîtrai encore pour ma femme. Donnez-lui au moins la main, afin qu'elle n'en doute pas, dit Maria Dmitrievna, dont les larmes avaient séché depuis longtemps. Je n'ai jamais trompé jusqu'ici Varvara Pavlovna, répondit Lavretsky. Elle me croira sans cela. Je l'amènerai à Lavriki. Mais souvenez-vous-en, Varvara Pavlovna, aussitôt que vous le quitterez, notre traité sera rompu. Et maintenant, permettez-moi de m'éloigner. Il salua les deux dames et sortit en toute hâte. Vous ne l'emmenez pas avec vous ? Lui cria encore Maria Dmitrievna. « Laissez-le, » murmura Varvara Pavlovna. Puis elle se mit à l'embrasser, à la remercier, à lui baiser les mains, la nommant son ange sauveur. Maria Dmitrievna recevait ses caresses avec un air de condescendance, mais au fond du cœur, elle n'était contente ni de Lavretsky, ni de Varvara Pavlovna, ni de toute la scène qu'elle avait préparée. Elle ne la trouvait pas assez sentimentale. Varvara Pavlovna, à son avis, aurait dû se jeter aux pieds de son mari. Mais comment ne m'avez-vous pas comprise, lui dit-elle sans cesse. Je vous avais pourtant dit, agenouillez-vous. Non, cela était mieux ainsi, ma chère tante. « Rassurez-vous, tout s'est parfaitement passé, » répondait Varvara Pavlovna. « Oh, mais il est lui-même froid comme de la glace, » continua Maria Dmitrievna. « Oh, vous n'avez point pleuré, il est vrai. Mais moi, que de larmes j'ai versées devant lui. Il veut vous cloîtrer à Lavriki. Quoi, vous ne pourrez pas même venir me voir ?» « Oh, les hommes n'ont point de cœur !» ajouta-t-elle en hochant la tête d'un air significatif. « En revanche, les femmes savent apprécier la bonté et la générosité, » répondit Varvara Pavlovna. Et, se laissant doucement glisser aux genoux de Maria Dmitrievna, Elle enlaça de ses bras la taille arrondie de la bonne dame et la serra contre elle son visage. Ce visage souriait en tapinois, tandis que les larmes de Maria Dmitrievna recommençaient à couler. Pendant ce temps, Lavretsky était retourné chez lui. Il s'était enfermé dans la chambre de son domestique, s'était jeté sur un divan et resta couché ainsi jusqu'au lendemain matin. Le lendemain était un dimanche. Le son des cloches annonçant la première messe ne réveilla pas Lavretsky. Il n'avait pas fermé l'œil de toute la nuit. Mais cela lui rappela un autre dimanche où, pour complaire à la jeune fille, il était allé à l'église. Il se leva à la hâte. Une voix mystérieuse lui disait qu'il l'y verrait encore ce jour-là. Il quitta la maison sans bruit, fit dire à Varvara Pavlovna qu'il n'était pas réveillé, qu'il serait de retour pour le dîner, et se dirigea à grands pas du côté où l'appelait le tintement triste et monotone. Il arriva tôt. Il n'y avait presque personne à l'église. Le sacristain, debout dans le chœur, psalmodiait les heures. Sa voix, de temps en temps entrecoupée par la toux, résonnait en mesure, tombant et s'élevant tour à tour. Lavretsky resta auprès de la porte. Les fidèles arrivaient les uns après les autres, s'arrêtaient, faisaient le signe de la croix et saluaient de tous côtés. Leurs pas retentissaient sous les voûtes, dans le vide et dans le silence. Une vieille femme infirme, vêtue d'une robe à capuchon, se tenait à genoux à côté de Lavretsky et priait avec ferveur. Son visage jaune et ridé, sa bouche édentée, exprimait une vive émotion. Ses yeux rouges étaient fixés immobiles sur les images de l'iconostase. Sa main osseuse sortait continuellement de dessous sa robe et faisait lentement et d'un geste brusque de grands signes de croix. Un paysan, la barbe épaisse et au visage rébarbatif, les cheveux et les vêtements en désordre, entra dans l'église, se jeta à deux genoux, multipliant les signes de croix, secouant la tête et la renversant en arrière après s'être prosterné jusqu'à la terre. Une douleur si amère se peignait sur ses traits et dans chacun de ses mouvements que Lavretsky s'approcha de lui et lui demanda ce qu'il avait. Le paysan recula d'un air craintif et farouche, puis le regardant, « Mon fils est mort, » dit-il d'une voix creuse. Et il recommença à se prosterner. Qu'est-ce qui pourrait remplacer pour eux les consolations de l'Église ? Pensa Lavretsky. Lui-même essaya de prier, mais son cœur était oppressé, endurci, et ses pensées étaient loin. Il attendait toujours Lise, mais Lise ne venait pas. L'Église se remplissait de monde, mais il ne la voyait nulle part. La messe avait commencé. Le diacre avait achevé la lecture de l'évangile, on sonnait déjà l'offertoire. Lavretsky s'avança un peu, et tout à coup, il aperçut Lise. Elle était venue avant lui, mais il ne l'avait pas vue. Serrée entre le mur et la grille du chœur, elle restait immobile, sans regarder autour d'elle. Lavretsky n'en détourna plus les yeux jusqu'à la fin de la messe. Il lui adressait un dernier adieu. La foule commençait à s'écouler et elle se tenait toujours à sa place. Peut-être attendait-elle le départ de Lavretsky. Enfin, elle se signa pour la dernière fois et sortit sans se retourner. Une femme de chambre seule l'accompagnait. Lavretsky quitta l'église après elle et la rejoignit dans la rue. Elle marchait très vite, la tête inclinée et le voile baissé. « Bonjour, Lisaveta Mikhailovna, » dit-il à haute voix et avec une aisance forcée. Me permettez-vous de vous accompagner ? Elle ne répondit point, et il se mit à marcher à côté d'elle. Êtes-vous contente de moi ? Lui demanda-t-il en baissant la voix. Vous savez ce qui s'est passé hier ? Oui, oui, murmura-t-elle, c'est bien. Et elle marcha plus vite encore. Vous êtes contente ? Lise fit seulement un signe de tête. Fiodor Ivanovitch, dit-elle d'une voix calme, mais faible, je veux vous adresser une prière. Ne venez plus chez nous. Partez au plus vite. Nous pourrons nous voir plus tard, un jour ou dans un an. Et maintenant, éloignez-vous, faites-le pour moi. Accordez-moi cette grâce, au nom du ciel. Je suis prête à vous obéir en toutes choses, dit Lizaveta Mihailovna. Mais est-ce ainsi que nous nous séparons ? Ne me direz-vous pas un mot ? Fiodor Ivanovitch, vous marchez en ce moment à côté de moi. Et pourtant, vous êtes déjà si loin de moi. Et ce n'est pas vous seul. Achevez, je vous en supplie, s'écria Lavretsky. Que voulez-vous dire ? Vous le saurez peut-être, mais quoi qu'il arrive, oubliez. Enfin, non, ne m'oubliez pas, souvenez-vous de moi. Moi, vous oubliez. Assez. Adieu. Quittez-moi. Lise, recommença Lavretsky. Adieu, adieu, répéta-t-elle. Elle baissa encore davantage son voile et continua son chemin presque en courant. Lavretsky la suivit des yeux, puis le front incliné, il retourna sur ses pas. Il alla se heurter contre Lem, qui marchait aussi, le chapeau enfoncé sur les yeux et les regards fixés à terre. Il y eut un moment de silence. « Eh bien, que me direz-vous ? » demanda enfin Lavretsky. « Ce que je vous dirai ? » reprit Lem d'un ton de mauvaise humeur. « J'ai rien à vous dire. Tout est mort et nous sommes morts. Alles ist tot und wir sind tot. Votre chemin est à droite, n'est-ce pas ? Oui, à droite. Et le mien à gauche. Adieu. » Le lendemain matin, Fiodor Ivanovitch partit avec sa femme pour Lavriki. Elle était en avant dans une voiture avec Anna et Justine. Il la suivait en tarantas. Tout le long du chemin, la jolie petite fille ne quitta point la portière. Tous les tonnets, les paysans, les paysannes, les isbas, les puits, les dougas des chevaux, les clochettes et les volets de corbeaux. Justine partageait son étonnement. Varvara Pavlovna riait de leurs remarques et de leurs exclamations. Elle était de bonne humeur. Avant de quitter la ville d'Ado, elle avait eu une explication avec son mari. « Je comprends votre position, lui avait-elle dit. » Et ses yeux expressifs lui avaient assez montré qu'elle avait tout deviné. « Mais vous me rendez au moins cette justice, que je suis facile à vivre. Alors je ne vous importunerai pas. Je ne vous gênerai aucunement. J'ai voulu assurer l'avenir d'Anna, c'est tout ce qu'il me faut. »« Oui, vous avez atteint tous vos buts, » avait répondu Fiodor Ivanovitch. « Je ne rêve plus qu'à une chose maintenant, c'est à m'enterrer pour toujours dans la solitude. » Mais je n'oublierai jamais vos bienfaits. Allons donc, fit-il en interrompant, et je saurai respecter votre indépendance et votre tranquillité, ajouta-t-elle pour achever la phrase qu'elle avait préparée. Lavretsky lui fit un profond salut. Varvara Pavlovna comprit que son mari la remerciait au fond du cœur. Le lendemain, vers le soir, ils étaient à Lavriki. Une semaine plus tard, Lavretsky partait pour Moscou laissant à sa femme 5 000 roubles pour ses dépenses. Et le lendemain de son départ, arrivé Panchin, que Varvara Pavlovna avait prié de ne pas l'oublier dans sa solitude. Elle le reçut au mieux, et jusqu'à la nuit tombante, les sons de la musique, les chants et les joyeuses conversations en français retentirent dans la maison et le jardin. Panchin passa 3 jours chez Varvara Pavlovna. En lui disant adieu et en serrant avec force ses jolies mains, il lui promit de revenir bientôt, et il tint sa promesse. Lise avait au second étage de la maison de sa mère une petite chambre à elle, propre et claire, dont l'ameublement consistait en un petit lit blanc, une table à écrire, des pots de fleurs dans les coins et devant les fenêtres, et une étagère avec des livres et un crucifix au mur. Cette chambre avait gardé le nom de chambre d'enfant. Lise y était née. Revenue de l'église où elle avait vu Lavretsky, elle rangea tout chez elle avec un soin particulier, essuya la poussière, examina et noua soigneusement ses cahiers et les lettres de ses amies, ferma à clé toutes ses boîtes, arrosa ses fleurs et les toucha toutes une à une. Elle faisait cela sans hâte et sans bruit. Son visage exprimait une préoccupation douce et émue. Elle s'arrêta enfin au milieu de la chambre, regarda lentement autour d'elle, et s'approchant de la table au-dessus de laquelle était accroché le crucifix, elle tomba à genoux, appuya sa tête contre ses mains fortement serrées, et resta immobile dans cette attitude. C'est ainsi que la trouva Marfa Timofievna en entrant quelques moments après. Lise ne l'avait pas entendue venir. La vieille dame sortit sur la pointe des pieds et, arrivée derrière la porte, elle toussa plusieurs fois. Lise se releva vivement, essuya ses yeux où perlaient des larmes au bord de sa paupière. « Ah ! Je le vois, tu as de nouveau rangé ta petite cellule !» observa Marfa Timofievna en se penchant comme pour sentir une rose nouvellement épanouie. « Oh, comme elle sent bon !» Lise regarda sa tante d'un air rêveur. Oh, quelle parole vous venez de prononcer ? Murmura-t-elle. Comment, quelle parole ? Reprit vivement la vieille dame. Que veux-tu dire ? C'est affreux ! S'écria-t-elle en jetant tout à coup son bonnet à terre et en s'asseyant sur le lit de Lise. C'est au-dessus de mes forces ! « Voilà 4 jours que je suis comme dans une fournaise ardente. Je ne puis faire non plus longtemps. Je ne puis te voir pâlir, dessécher, pleurer. Je ne le puis plus, je ne le puis. »« Mais qu'avez-vous donc, ma tante ?» balbutia Lise. « Moi, je n'ai rien. »« Rien !» s'écria Marfa Timofievna. « Ah, tu peux dire cela à d'autres. Rien !» et qui se tenait à genoux tout à l'heure. Qui a les yeux encore mouillés de larmes? Rien, mais regarde-toi donc. Qu'as-tu fait de ton visage et de tes yeux? Rien, comme si je ne savais pas tout. Oh, cela passera, ma tante, laissez faire le temps. Cela passera, mais quand? Mon Dieu Seigneur, l'aimes-tu vraiment à ce point? « Mais c'est un vieillard, ma chère petite Lise. Oh, je dis d'ailleurs rien contre lui, c'est un honnête homme, il ne mord pas. Mais quoi, nous sommes tous de braves gens, le monde est grand, et d'honnêtes gens comme lui, on en trouvera toujours. » « Mais je vous le répète, tout cela passera, c'est déjà passé. Écoute, ma chère enfant, ce que j'ai à te dire. » s'écria tout à coup Marfa Timofievna en faisant asseoir Lise sur le lit à côté d'elle et en arrangeant tantôt ses cheveux, tantôt son fichu. Ce n'est qu'au premier moment que ton chagrin te paraît sans remède. Et, mon âme, la mort est seule et le remède. Dis-toi seulement, je ne veux pas me laisser abattre, allons donc. Et tu seras étonné comme cela passera vite et facilement. Prends seulement patience. Mais ma tante, recommença Lise, c'est déjà passé. Tout est passé. Passé ? Comment passé ? Te voilà tout ému et tu dis que cela passe. Est-ce ainsi que cela passe ? Oui, ma tante, cela est passé. Si vous voulez seulement venir à mon aide, s'écria Lise avec une animation subite et en jetant au cou de Marfa Timoïevna. Chère tante, soyez mon amie, secourez-moi. Ne vous fâchez pas, tâchez de me comprendre. Mais qu'y a-t-il, ma petite mère ? Ne m'effraie pas, je t'en supplie. Je m'en vais crier. Oh, me regarde pas ainsi, parle vite. Qu'est-ce donc ? Je veux. Lise cacha sa figure sur le sein de Marfa Timofievna. Je veux entrer au couvent, murmura-t-elle d'une voix sourde. La vieille dame fit un bond sur le lit. Oh, fais un signe de croix, ma petite Lisette. Réfléchis à ce que tu veux faire. Dieu soit avec toi, balbutia la vieille. Couche-toi, ma chère colombe. Essaie de dormir un peu. Tout cela, mon âme, provient de l'insomnie. Lise releva la tête, ses joues étaient brûlantes. Non, ma tante, murmura-t-elle, ne parlez pas ainsi. Je suis décidée, j'ai prié, j'ai demandé conseil à Dieu, tout est fini. Je ne puis plus rester près de vous. Une telle épreuve doit porter ses fruits, ce n'est pas la première fois que j'y songe. Le bonheur n'était pas fait pour moi, alors même que l'espoir semblait me sourire, je sentais mon cœur se serrer. Je sais tout, je connais ma faute et celle des autres, ainsi que la manière dont mon père s'est enrichi, je sais tout. Il faut expier tout cela par la prière. Je vous regrette. Je regrette maman et les Notchka, mais il n'y a rien à faire. Je le sens. Ce n'est pas ici que je dois vivre. J'ai déjà pris congé de tout. J'ai tout salué dans la maison pour la dernière fois. Quelque chose m'appelle, quelque chose me dit de m'enfermer pour la vie. Ne me retenez pas, ne me dissuadez pas. Venez à mon secours, ou je m'en irai toute seule. Marfa Timofievna écoutait sa nièce avec effroi. Elle est malade, elle a le délire, pensa-t-elle. Oh, il faut envoyer chercher le médecin, mais lequel ? Oh, Gonéonovski parlait l'autre jour d'un bon médecin, mais il ment toujours. Oh, qui sait, peut-être était-ce la vérité cette fois ? Mais lorsqu'elle se fut persuadée que Lise n'avait point le délire, qu'elle n'était point malade et qu'elle répondait de même à toutes ses objections, Marfa Timofievna s'effraya et s'affligea sérieusement. Mais tu sais bien, ma colombe, quelle est la vie du couvent. On va te nourrir d'huile de chanvre toute verte, te vêtir de linge bien gros, on te fera sortir malgré le froid. Mais tu ne pourras pas supporter tout cela, ma Lise. C'est l'affluence des Gaffea qui agit sur toi. C'est elle qui t'a monté la tête. Mais elle avait commencé par jouir de la vie, commence aussi par vivre. Laisse-moi du moins mourir tranquille, puis tu feras ce que tu voudras. A-t-on jamais vu qu'on entre au couvent par amour pour un homme ? Oh, Dieu me pardonne, pour une barbe de bouc, eh bien, si tu n'en peux plus, fais un pèlerinage, va prier quelques saints, mais ne prends pas le voile. Voyons, mon petit père, voyons, ma petite mère. Et Marfa Timoïevna se mit à pleurer amèrement. Lise la consolait, essuyait ses larmes, pleurait elle-même, mais restait inflexible. Dans son désespoir, Marfa Timofievna essaya d'user de la menace, promit de tout dire à sa mère, peine inutile. Ce ne fut qu'à force d'instance que la vieille obtint de Lise qu'elle remit l'exécution de son projet à 6 mois. En revanche, Marfa Timofievna s'engagea à lui venir en aide et obtenir le consentement de sa mère si dans 6 mois, elle n'avait pas changé de résolution. À peine l'effroi avait-il commencé que Varvara Pavlovna, munie d'argent et en dépit de sa promesse, quitta la campagne et alla s'installer à Pétersbourg, où elle prit un logement modeste mais élégant que lui avait trouvé Panchine. Celui-ci avait quitté le gouvernement d'Ô avant elle. Dans les derniers temps de son séjour à Ô, il avait entièrement perdu les bonnes grâces de Maria Dmitrievna, avait tout à coup cessé d'aller la voir et ne quittait presque plus Lavriki. Varvara Pavlovna s'était à la lettre emparée de lui. On ne peut se servir d'un autre mot pour exprimer le pouvoir absolu et sans borne qu'elle exerçait sur sa volonté. Lavretsky passa l'hiver à Moscou et au printemps suivant, il apprit que Lise était entrée au couvent de B, dans une des parties les plus reculées de la Russie. Épilogue. 8 années s'étaient écoulées. On était de nouveau au printemps. Disons d'abord en peu de mots ce que devinrent Panchine et Madame Lavretsky. Nous n'aurons plus ensuite à nous occuper d'eux. Panchine est fort avancé en grade et aspire déjà à la place de directeur. Il marche un peu voûté. C'est probablement la croix de Saint-Vladimir qu'on lui a mise au cou qui le fait pencher ainsi en avant. Le tchinovnik l'emporte décidément, lui, sur l'artiste. Sa figure, jeune encore, a jauni. Ses cheveux sont devenus rares. Il ne chante et ne dessine plus, mais il s'occupe en secret de littérature. Il a écrit une petite comédie dans le genre proverbe, et à l'exemple de tous les écrivains d'aujourd'hui qui prennent pour petite figure qu'il leur tombe sous la main, il a aussi mis en scène une coquette et il lit sa comédie en secret à 2 ou 3 dames qui ont des bontés pour lui. Il n'est pas marié, malgré toutes les belles occasions qu'il a eues. Varvara Pavlovna en est cause. Quant à celle-ci, elle habite constamment Paris, comme autrefois. Fiodor Ivanovitch lui a constitué une rente à son nom. Il s'est ainsi délivré d'elle et s'est mis à l'abri d'un second retour imprévu. Elle a vieilli et pris encore plus d'embonpoint, mais elle est toujours agréable et séduisante. Chaque personne a son idéal. Varvara Pavlovna a trouvé le sien dans les productions dramatiques de M. Dumas fils. On la voit souvent au théâtre où l'on représente des camélias phtisiques et sensible. Jouer le rôle de Madame Doche lui paraît le suprême degré du bonheur terrestre, et elle a déclaré un jour qu'elle ne souhaitait point pour sa fille de meilleur avenir. Il faut espérer que le destin délivrera Mademoiselle Anna d'un pareil bonheur. L'enfant, rose et potelée, est devenue une petite fille pâle et de poitrine faible. Ses nerfs sont déjà dérangés. Le nombre des adorateurs de Varvara Pavlovna a diminué, mais elle en a toujours. Elle en gardera probablement quelques-uns jusqu'à la fin de sa vie. Le plus ardent d'entre eux a été, dans ce dernier temps, un certain Zakour Dalos Poulidinikov, ancien officier de la garde en retraite, homme de 38 ans et d'une constitution vigoureuse. Les habitués français du salon de Madame Lavretsky l'appelle le gros taureau de l'Ukraine. Varvara Pavlovna ne l'invite jamais à ses soirées élégantes, mais il jouit pleinement de ses bonnes grâces. Ainsi, 8 années s'étaient écoulées. Le printemps, rayonnant de bonheur, souriait de nouveau à la nature et à l'homme. Sous l'influence de ses douces caresses, tout recommençait à fleurir, à aimer, à chanter. La ville d'eau avait peu changé dans l'espace de ces 8 années, mais la maison de Madelia Dmitrievna semblait avoir rajeuni. Ses murs, fraîchement blanchis, lui donnaient un aspect riant, et les vitres de ses fenêtres ouvertes se coloraient et étincelaient au rayon du soleil couchant. De ses fenêtres s'échappaient des rires continuels et les sons joyeux et légers de voix jeunes et argentines. Toute la maison paraissait pétiller de vie et d'animation et débordée de gaieté. La maîtresse du logis était depuis longtemps descendue dans la tombe. Maria Dmitrievna était morte 2 ans après que Lise avait pris le voile, et Marfa Timofievna n'avait pas bien longtemps survécu à sa nièce. Elles reposent l'une à côté de l'autre dans le cimetière de la ville. Nastasia Karpovna les a suivies. Fidèle dans ses affections, elle n'avait cessé pendant plusieurs années d'aller régulièrement toutes les semaines prier sur la tombe de son amie. Son heure sonna, et ses restes furent aussi déposés dans la terre froide et humide. Mais la maison de Maria Dmitrievna ne passa point dans des mains étrangères. Elle ne sortit point de la famille. Le nid ne fut point détruit. Lenotchka, transformée en une svelte et jolie fille, et son fiancé, jeune officier de hussards, le fils de Maria Dmitrievna, récemment marié à Pétersbourg, venu avec sa femme passer le printemps à O, la sœur de celle-ci, pensionnaire de 16 ans, aux joues vermeilles et aux yeux brillants, la petite Chorotchka, également grandie et embellie, telle était la jeunesse dont la gaieté bruyante faisait résonner les murs de la maison Kalitine. Tout y était changé, tout y avait été mis en harmonie avec ses nouveaux hôtes. De jeunes garçons imberbes et toujours prêts à rire avaient remplacé les vieux et graves serviteurs d'autrefois. Là où Roska, dans sa graisse, s'était promenée à pas majestueux, 2 chiens de chasse s'agitaient bruyamment et sautaient sur les meubles. L'écurie était peuplée de chevaux fringants, bêtes robustes d'attelage ou de trait, chevaux de carrosse ardents aux crins tressés, chevaux de main du don. Les heures du déjeuner, du dîner, du souper s'étaient mêlées et confondues. Un ordre de choses extraordinaires s'était établi, suivant l'expression des voisins. Dans la soirée dont nous parlons, les habitants de la maison Kalitine, le plus âgé d'entre eux, le fiancé de Lenotchka, avait à peine 24 ans, jouait un jeu assez peu compliqué, mais qui paraissait beaucoup les amuser, s'il fallait en juger, par les rires qui éclataient de toutes parts. Ils couraient dans les chambres et s'attrapaient les uns les autres. Les chiens couraient aussi et aboyaient, pendant que les serins, du haut de leur cage, suspendus aux fenêtres, s'égosillaient à qui mieux, augmentant de leurs gazouillements aigus et incessants le vacarme général. Au beau milieu de ces ébats étourdissants, un tarantas, couvert d'éclaboussures, s'arrêta à la porte cochère. Un homme de 45 ans, en habit de voyage, en descendit et s'arrêta, frappé de surprise. Il se tint immobile pendant quelques instants, embrassa la maison d'un regard attentif, entra dans la cour et monta doucement le perron. Il n'y avait personne dans l'antichambre pour le recevoir. Mais la porte de la salle à manger s'ouvrit soudain à 2 battants. La petite Chourotska s'en échappa, les joues toutes rouges, et aussitôt toute la bande joyeuse accourut à sa poursuite, poussant des cris perçants. Elle s'arrêta tout à coup et se tut à la vue d'un étranger. Mais ses yeux limpides, fixés sur lui, gardèrent leur expression caressante. Les frais visages ne cessèrent point de rire. Le fils de Maria Dmitrievna s'approcha de l'étranger et lui demanda poliment ce qu'il désirait. « Je suis Lavretsky, » murmura-t-il. Un cri amical répondit à ces paroles. Ce n'est pas que toute cette jeunesse se réjouit beaucoup de l'arrivée d'un parent éloigné et presque oublié, mais elle saisissait avec empressement la moindre occasion de s'agiter et de manifester sa joie. On fit aussitôt cercle autour de Lavretsky. Lenotchka, en qualité d'ancienne connaissance, se nomma la première. Elle assura que, quelques moments encore, elle l'aurait parfaitement reconnu. Puis elle lui présenta le reste de la société, appelant chacun son fiancé lui-même par son prénom. Toute la bande traversa la salle à manger et se rendit au salon. Les papiers de tenture dans les deux pièces avaient été changés, mais les meubles étaient les mêmes qu'autrefois. Lavretsky reconnut le piano. Le métier à broder auprès de la fenêtre était aussi le même et n'avait pas bougé de place. Peut-être la broderie, restée inachevée il y a 8 ans, s'y trouvait-elle encore. On établit Lavretsky dans un grand fauteuil et tout le monde prit gravement place autour de lui. Les questions, les exclamations, les récits se succédèrent rapidement.
« Mais il y a longtemps que nous vous avons vu, observa naïvement Lenotchka, ni Varvara Pavlovna non plus. »«
Oh, je crois bien, » reprit aussitôt son frère.
« Je t'avais emmené à Pétersbourg, tandis que Fyodor Ivanovitch est resté tout ce temps à la campagne. »
Oui, et maman est morte depuis.
Et Marfa Timoyevna, murmura la petite Chourotska. Et Nastasia Karpovna, reprit Lenotchka. Et monsieur Lem.
Comment, Lem est mort aussi? Demanda Lavretsky.
Oui, répondit le jeune Kalitin. Il est parti d'ici pour Odessa. On dit qu'il a été attiré par quelqu'un, c'est là qu'il est mort.
Vous ne savez pas s'il a laissé de la musique de sa composition?
Oh, je sais, oh, j'en doute.
Tout le monde se tut et se regarda. Un nuage de tristesse passa sur ses jeunes visages.
Matroska vit encore, dit tout à coup Lenotchka.
Et Gwenodonovski aussi, ajouta son frère. Le nom de Gwenodonovski excita l'hilarité générale.
Oui, il vit et ment comme jadis, continua le fils de Maria Dmitrievna. Et imaginez-vous, cette petite folle, il désigna la jeune pensionnaire, la sœur de sa femme, lui a mis hier du poivre dans sa tabatière. « Comme il a éternué !» s'écria Lenotchka, et le même rire irrésistible éclata à ce souvenir.
« Ah, nous avons eu des nouvelles de Lise depuis peu !» murmura le jeune Kalitin. Et tout le monde se tut.
« Elle va bien, sa santé se remet petit à petit. »«
Elle est toujours dans le même couvent ?» demanda Lavretsky avec effort.
« Oui, oui, toujours. »«
Vous écrit-elle ? » ?»«
Oh non, jamais, mais nous avons de ces nouvelles par d'autres. »
Il se fit soudain un profond silence. « Voilà l'ange du silence qui passe. » Telle fut la pensée de tous. Ne voulez-vous pas aller au jardin ? Dit Kalitine en s'adressant à Lavretsky. Il est fort joli en ce moment, quoique nous l'ayons un peu négligé. Lavretsky descendit au jardin, et la première chose qui frappa sa vue, ce fut le banc sur lequel il avait passé avec Lise quelques instants de bonheur qu'il n'avait plus retrouvé. Ce banc avait noirci et s'était recourbé. Mais il le reconnut, et son âme éprouva ce sentiment que rien n'égale, ni dans sa douceur ni dans sa tristesse, ce sentiment de vif regret qu'inspire la jeunesse passée et le bonheur dont on a joui autrefois. Il se promena dans l'allée avec toute cette jeunesse. Les tilleuls avaient un peu grandi et vieilli pendant ces 8 années. Leur ombre était devenue plus épaisse. Les buissons s'étaient développés, les framboisiers s'étaient multipliés, les noisetiers étaient plus touffus, et partout s'exhalait une fraîche odeur de verdure, d'herbe, de lilas. Voilà où il ferait bon jouer aux 4 coins, s'écria tout à coup Lenotchka en courant vers une pelouse toute verte, entouré de tilleuls. Nous sommes justement 5. Et Fiodor Ivanovitch, tu l'as oublié, répliqua son frère. Où est-ce toi-même que tu n'as point compté ? Lenotchka rougit légèrement. Mais Fiodor Ivanovitch, à son âge, peut-il ? Commença-t-elle. Oh, jouez, je vous en prie, s'empressa de répondre Lavretsky. Ne faites pas attention à moi. Il me sera plus agréable à moi-même de savoir que je ne vous gêne point. Ne changez pas à m'amuser. Nous autres vieillards, nous avons une occupation que vous ne connaissez point encore et qu'aucune distraction ne peut remplacer pour nous. Les souvenirs. Les jeunes gens écoutaient Lavretsky avec une attention respectueuse, étant soit peu ironique, comme ils eussent écouté la leçon d'un professeur, puis ils le quittèrent en courant. 4 d'entre eux se placèrent chacun auprès d'un arbre, le 5e au milieu, et le jeu commença. Quant à Lavretsky, il retourna vers la maison, entra dans la salle à manger, s'approcha du piano et mit le doigt sur une des touches. Un son faible mais clair s'en échappa, éveilla une vibration secrète dans son cœur. C'est par cette note que commençait la mélodieuse inspiration de Lem, qui avait naguère dans cette bienheureuse nuit plongé Lavretsky dans l'ivresse. Celui-ci passa ensuite au salon, et il y resta longtemps. Dans cette pièce où il avait si souvent vu Lise, l'image de la jeune fille se présentait plus vivement encore à son souvenir. Il lui semblait sentir autour de lui les traces de sa présence. Sa douleur l'oppressait et l'accablait. Cette douleur n'avait rien du calme qu'inspire la mort. Lise vivait encore, mais loin, mais perdue dans l'oubli. Il pensait à elle comme à une personne vivante et ne reconnaissait point celle qu'il avait aimée autrefois dans cette triste et pâle apparition enveloppée de vêtements de religieuse et entourée de nuages d'encens. Lavretsky ne se serait pas reconnu lui-même s'il avait pu se voir de la même façon dont il se représentait Lise. Dans ces 8 années, il avait traversé cette crise que tous ne connaissent point, mais sans l'épreuve de laquelle on ne peut se flatter de rester honnête homme jusqu'au bout. Il avait vraiment cessé de penser à son bonheur, à son intérêt. Le calme était descendu dans son âme, et pourquoi le cacher ? Il avait vieilli, non pas seulement de visage et de corps, mais son âme elle-même avait vieilli. Conserver jusqu'à la vieillesse un cœur jeune est, dit-on, chose difficile et presque ridicule. Heureux déjà, celui qui n'a point perdu la croyance dans le bien, la persévérance dans la volonté, l'amour du travail. Lavretsky avait le droit d'être satisfait. Il était devenu véritablement un bon agronome, avait appris à labourer la terre, et ce n'était point pour lui seul qu'il travaillait. Il avait amélioré et assuré autant que possible le sort de ses paysans. Lavretsky retourna au jardin, se mit sur ce banc de lui si connu, et à cette place chérie, en face de cette maison vers laquelle il avait en vain tendu les mains pour la dernière fois, dans l'espoir de vider cette coupe défendue où pétille et chatoie le vin doré de l'enchantement. Ce voyageur solitaire, au son des voix joyeuses d'une nouvelle génération qu'il avait déjà remplacé, jeta un regard en arrière sur ses joues écoulées. Son cœur se remplit de regrets, de tristesse, mais il ne fut pas accablé, il n'avait point de remords. « Jouez, amusez-vous, grandissez, jeunes gens, » pensait-il sans amertume. « La vie est devant vous, et elle vous sera plus facile. » Vous n'aurez pas comme nous à chercher le chemin, à lutter, à tomber, à vous relever dans les ténèbres. Nous ne songions qu'à nous sauver, et combien d'entre nous n'y ont pas réussi. Vous, vous devez agir, travailler, et notre bénédiction à nous autres vieillards descendra sur vous. Quant à moi, après cette journée, après ces impressions, il ne me reste qu'à vous saluer pour la dernière fois et à dire avec tristesse, mais le cœur exempt d'envie et d'amertume, en face de la mort et du jugement de Dieu. Oh, je te salue, vieillesse solitaire, vie inutile, achève de te consumer. Lavretsky se leva et s'éloigna doucement. Personne ne s'en aperçut, personne ne le retint. Les cris joyeux retentissaient plus fort encore derrière lui et derrière le mur épais verdoyant fermé par les grands tilleuls. Il monta dans son tarantas et dit au cocher de retourner à la maison sans presser les chevaux. Et à la fin, demandera peut-être le lecteur curieux, qu'arriva-t-il ensuite à Lavretsky, à Lise? Que dire de personnes qui vivent encore, mais qui sont déjà descendues de la scène du monde? Pourquoi revenir à elles? On dit que Lavretsky a visité le couvent où s'était retirée Lise, et qu'il l'a revue. Elle se rendait dans le cœur, elle a passé tout près de lui, d'un pas égal, rapide et modeste, avec la démarche particulière religieuse, et elle ne l'a point regardé, mais la paupière de l'œil tournée vers lui a frissonné légèrement, mais son visage amaigri s'est incliné davantage encore, mais ses mains jointes et enlacées de chapelet se sont serrées plus fortement. Que pensèrent, qu'éprouvèrent-ils tous deux? Qui le saura? Qui le dira? Il y a dans la vie de ces moments, de ces émotions, à peine s'il est permis d'en parler, s'y arrêter est impossible.